Street Unplugged by the Luxembourg Street Photo Collective.
Bonjour les amis, les hommes, les femmes, tout le monde. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour ce nouveau podcast et avec notre invité du moment, c'est Marc Wilvert. Bonjour Marc.
Moyen, bonjour.
Tout va bien?
Ganz gut, alles in der Reihe.
Ah, alles in der Reihe, für mich auch. Voilà, d'abord vous dire qu'on est en train d'enregistrer dans un très beau café, qui est le café Le Bovary. Voilà, vraiment un cadre exceptionnel. On se sent bien, on a été bien accueillis. L'acoustique est parfaite, n'est-ce pas Marc?
Oui. Et c'est magnifique le lieu, c'est vrai. C'est très, très chaleureux, très cosy. Ça me rappelle un peu les bistrots à Paris.
Ouais. Il y a c'est un peu ce bistrot littéraire, ouais, peut-être un peu de jazz aussi sur les bords. Alors, j'ai oublié de dire au début que ce podcast est enregistré pour le Luxembourg Street Photo Collective, donc notre collectif dédié à la photographie urbaine que tu connais, parce que tu nous as accompagnés déjà depuis un certain temps, notamment avec quelques expositions que tu as mises en place également lors de notre festival.
Mm-hmm, exact. Et merci de m'accueillir ici maintenant aussi.
Ben, c'est un plaisir parce que bon, on connaît Marc, enfin je te connais, on se connaît depuis un bon bout de temps. Et en même temps, voilà, tu n'arrêtes pas d'explorer le médium photographie à la fois sur le plan professionnel mais aussi sur le plan artistique, créatif. Donc je suis très heureux de t'avoir ici pour cet enregistrement. Normalement, on parle de street photographie, de photographie urbaine, mais on a l'esprit ouvert, on a les yeux grands ouverts, donc on ne se borne pas à ce dogme de la photographie prise au mode spontané dans les rues. On est intéressé aussi par toute forme d'expression photographique. Et donc justement, toi, tu as touché un peu à tout, mais toujours avec une rigueur très, très, très forte, j'ai observé, n'est-ce pas? Alors, raconte-nous un peu ton parcours, déjà. Comment tu en es arrivé à la photographie et surtout à la photographie sur le plan professionnel?
Ok. C'était pendant mon adolescence que j'ai pris goût à la photo. Au début, plutôt en la contemplant. Et après, par je sais pas comment dire, peut-être par un besoin de faire quelque chose, de créer quelque chose soi-même. Et puis il y a aussi un peu, au départ surtout, peut-être aussi d'ailleurs maintenant encore, il y a aussi un peu l'aspect technique quand même, qui peut-être m'a intéressé aussi. Donc et j'essaie de combiner les deux aussi peut-être. Et après, donc après mes études secondaires, je suis parti à Liège pour étudier la photographie à l'Institut Saint-Luc. Donc c'était Beaux-Arts, 3 années. Et après j'ai fait encore une année de photographie, c'était un cours de photographie professionnelle à Londres où je me suis lancé un peu dans le portrait et dans la mode un peu. C'était juste pour accueillir des expériences un peu différentes de l'Europe, disons, de l'Europe, bon, façon de dire. Mais en Belgique, j'ai vraiment bien aimé Saint-Luc, surtout les profs. J'ai trouvé que c'était vraiment une école très complète qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Et surtout, je crois, si quelqu'un me demande est-ce que c'est bien de faire des études en photographie, moi je dirais, sans hésiter, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner énormément de temps. Après, c'est toujours le photographe ou l'artiste, on peut l'appeler comme on veut, c'est toujours la personne même qui doit faire un effort ou trouver son chemin, aller son chemin seul. Mais je trouve une bonne école, elle peut vraiment permettre à quelqu'un de gagner du temps.
Là, ce qu'il cherche. On parle de quelle période? Il y a 20 ans, plus ou moins, sans avoir l'année exacte.
Oui, hein. À peu près. Moi, j'ai fini l'école. Je crois que j'ai fini l'école en 2002, je crois que j'ai fini Saint-Luc. Okay. J'avais fini Saint-Luc. Oui.
D'accord. Et donc, dans le courant des années 2000, tu te lances sur la voie professionnelle, notamment dans la presse.
Oui. Pendant mes études de photo. J'ai eu la chance d'avoir pu faire des stages au Luxembourg à Fort à l'époque, des stages. Donc, j'ai job d'été, hein, mm-hmm. comme les étudiants le font. Et ça, je crois que j'avais fait 2 ou 3 fois. Et après, on m'a proposé un poste de laborantin au sein du Fort. Donc, c'était encore
L'argentique.
De l'argentique, oui. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois que je parle pour toi aussi. Non, quoique, pardon. Notre ou ma génération, je crois qu'elle a eu la chance d'avoir fait la connaissance des deux, de la photo argentique et de la photo numérique. Quand j'étais à Saint-Luc, c'était l'argentique. Et la photo numérique, la photo digitale, elle était déjà dans la bouche des gens, mais c'était encore plus un spectre. Hein. C'était comme un fantôme qui rôdait un peu autour, qui créait quand même des incertitudes. Parce que tout le monde se posait la question à Saint-Luc, wow, le futur, l'avenir de la photo, c'est quoi? C'est numérique? C'est argentique? On ne savait pas. Et les professeurs, ils essayaient de nous rassurer. Ils disaient, oh, ça va encore durer longtemps, que le film soit au niveau de...
Que le digital soit au niveau du film.
Que le digital soit au niveau du film, point de vue résolution, point de vue dynamique, et voilà, donc point de vue technique. Voilà, et donc j'ai commencé comme ça au Luxembourg Award comme laborantin. Et puis après, je crois que j'avais fait ça pendant une ou deux années, et après il y a eu l'opportunité, la chance, on m'a proposé un poste de photo reporter au sein du Vought.
D'accord. Et là, tu étais dans le bain, quoi, dans le bain de la photo de presse.
C'était bien. Donc là, j'ai fait 12 ans au Vought.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment...
Bonne période.
Un beau métier.
Qu'est-ce qui est si beau dans la photographie de presse, dans être photographe de presse, qu'est-ce que ça implique? Quelles contraintes pour quelqu'un qui est créatif comme toi, qui a appris la photographie de façon très créative, expressive? Donc, quand on est dans la presse, on a quand même besoin d'obéir à beaucoup de contraintes. Comment est-ce que tu as su trouver le bon milieu, le bon équilibre entre répondre à ces contraintes de la photographie de presse et en même temps garder ton regard, ta créativité?
Faut que j'ouvre une parenthèse. En fait, donc, là, je travaille au Vought pour le moment, mais c'est ma deuxième période au Vought.
C'est ta deuxième, oui.
Parce que j'ai eu un petit contact.
Petite parenthèse.
Oui, j'ai travaillé... Je recommençais pendant deux années. Ces deux dernières années, je retravaillais pour le Vought. Et avant, je travaillais presque 7 ans pour la photothèque, pour le compte de la photothèque de la ville de Luxembourg.
Ouais.
Ce qui était magnifique aussi, mais c'est une autre façon d'apprécier la photo.
C'est une approche plus patrimoniale, non ?
C'est patrimonial, c'est peut-être un peu plus passif, et encore, avec ce que je faisais à l'époque à la photothèque. Mais les deux volets, c'est vraiment génial, on est au sein de la photo. Pour revenir à ta question, je crois qu'un beau photoreporter, il faut qu'il... En tout cas, ce que moi je fais, j'essaie de séparer les deux. Hein. J'essaie de séparer un peu mon travail, entre guillemets, plutôt artistique, personnel, que je fais vraiment en dehors de mon travail du photoreporter. Et photoreporter... Pour le Vought, je le fais en tant que photoreporter du Vought. Ce qui m'intéresse dans ce métier-là, maintenant encore plus, que si je peux le dire comme ça, que pendant ma première période au Vought, j'essaie, ou même pas, ça vient naturellement, je m'intéresse vraiment à l'histoire que le Vought, il a trouvée et dont j'ai la mission de la reproduire photographiquement. D'accord. Parce qu'il y a toujours une histoire. Et ça... Je l'avais peut-être un peu perdu de vue lors de ma première période.
Okay.
Et là je prends, c'est peut-être avec l'âge aussi, je prends plus conscience de l'histoire et des gens qui sont derrière une certaine histoire.
Donc peu importe le sujet où tu peux être amené à prendre des photos, tu t'intéresses plus intensément à la personne ou à la situation.
Exactement, parce qu'il y a toujours quelque chose, sinon le journal ne s'y intéressait pas non plus. Il y a forcément quelque chose, et si on creuse encore davantage, on trouve encore toujours davantage quelque chose.
Il y a aussi le fait que, aujourd'hui, la presse, elle se doit d'être... encore plus créatif qu'avant, justement, pour retenir l'attention des lecteurs et pour proposer, dans le domaine des images, pour proposer des images qui vont au-delà de la simple illustration que, aujourd'hui, n'importe qui peut faire avec le portable.
Oui, exactement, c'est ça. On peut aller aussi encore plus loin, on peut même faire du vrai storytelling. Donc, aller encore en plus loin, même en mélangeant un peu vidéo avec photographie et avec le texte, l'article, évidemment.
Mais tu ne fais pas de la vidéo, hein. Toi, tu fais photo, photo.
Ça nous arrive des fois et de plus en plus.
De plus en plus,
parce que le médium, on met de plus en plus, je crois que la presse en général met de plus en plus l'accent aussi sur la présence
sur les réseaux,
sur Internet, sur les réseaux. Et forcément, sur les réseaux, il y a d'autres moyens.
Il y a l'audio, la vidéo, la photo.
Qui permettent vraiment, ou qui nous obligent carrément de faire aussi autre chose que de la photo pure
et, d'accord,
pure et dure.
On est vraiment dans une nouvelle période, une nouvelle révolution de l'image.
Exact.
À la fois dans le domaine digital, avec une sophistication accrue des appareils, et avec l'arrivée de l'AI.
Oui, oui.
Qu'est-ce que tu en penses? Petite parenthèse, on ne va pas faire le débat. Mais...
Non, mais je crois qu'il faut parler de ça, parce que c'est partout maintenant.
C'est partout,
tout le monde connaît ChatGPT, les magazines photo parlent souvent.
Est-ce que toi, tu as peur de ça, de cette imminence?
Disons que je me suis posé pas mal de questions en rapport avec l'AI, ou l'IA, comme on dit.
Artificial intelligence.
oui, quand même. Ça me fait que je me pose beaucoup de questions sur la photographie, sur le futur de la photographie, sur le futur ou l'avenir de la profession en tant que photographe ou en tant que créateur d'images. Mais heureusement, disons que des images, je crois qu'il faut bien différencier. Si on reste dans la définition purement de la photographie, et la photographie a toujours un rapport, par définition, à la lumière et au réel, on pourra dire que toute création d'image faite par une IA ou une AI n'est pas une photo. C'est un montage ou
un travail graphique.
Un travail graphique avec un look photo. D'ailleurs, les Allemands, ils ont très bien compris, parce qu'eux, ils ont un nom spécifique pour une image créée artificiellement.
Comment ils disent ?
Qui a un look photo, ils disent... pas une photo, justement, ils disent das photographische. C'est une peinture, si on veut, qui a
l'aspect photo.
Voulu,
ouais.
De la photo. Mais c'est pas une photo. C'est pas une photo parce que c'est une peinture de pixels. Hein.
Absolument, oui. Voilà, et en français, on n'a pas encore vraiment trouvé le terme.
Oui. Et je trouve bien, et je trouve intéressant et important de faire cette différence. Par contre, les créateurs de dessin ou de les graphistes, c'est plus compliqué, je dirais, hein, parce que
parce que l'AI vient carrément sur leur plate-bande. Hein.
Voilà, un graphique, c'est toujours un graphique. S'il est fait par une machine ou par un être humain, si le résultat il est bon, c'est limite. Hein, c'est le résultat qui compte et c'est toujours un graphique.
On a déjà vu certaines campagnes de publicité, même au Luxembourg, qui ont été faites exclusivement avec des images créées artificiellement.
Oui, j'en ai vu aussi.
Pour l'instant, on arrive encore à voir que c'est une image AI, hein, parce que moi, j'ai toujours le feeling, même sur les réseaux, tu en vois.
Un peu le feeling, c'est vrai. Hein.
Quand c'est trop parfait, quand c'est trop lisse.
Exact. Oui, exact. Et je dis aussi qu'il y a des domaines, heureusement aussi, de la photographie où ça ne donne vraiment pas de sens et aussi où les producteurs ont bien compris que c'est une limite. Justement, c'est la photo de presse, c'est la photo de reportage.
Oui.
Sinon, on dans est un lieu, dans les fake news. Voilà.
Dans un lieu avec des situations réelles.
Exact.
Parce que tu ne vas pas recréer... S'il y a une manifestation, voilà, l'idée, c'est d'aller photographier la manifestation qui a lieu dans les rues à ce moment-là.
Oui, comme c'était.
Comme c'était.
Comme c'était, faire un rapport.
Et pourtant, il y a déjà eu des images AI... qui ont été créés pour illustrer des manifestations. Malheureusement, pour raconter des mensonges.
Mais oui.
Donc il faut vraiment qu'on reste vigilant.
Mais oui. Heureusement que voilà, les plus grands quotidiens et les agences même, ils sont très, très... Ils ont très, très, une grande conscience du problème et ils font tout pour garder la qualité, okay. Heureusement.
Revenons à ton travail, sinon on va passer tout le podcast à parler de l'intelligence artificielle. D'accord, tu nous as parlé un petit peu de ton approche de la photographie de presse et tu nous as aussi mentionné que tu as quand même un parcours personnel, créatif, artistique. Tu as fait de nombreuses expositions, quelques livres également. Donc tu nous as amené aussi une petite série de photos qu'on va publier en parallèle du podcast. C'est une série d'une dizaine de photos qui illustre bien la diversité de tes approches. Donc on peut parler d'exploration dans l'expression de la photographie. Qu'est-ce qui te motive dans le choix des sujets ? Parce que s'il y a des portraits, il y a des paysages, il y a de la photographie urbaine, toujours avec une très forte exigence picturale. Ce n'est jamais une photo banale. Donc qu'est-ce qui te motive ? C'est le médium ? C'est le sujet ? Est-ce que tu travailles sur des sujets de long cours ?
Okay,
c'est beaucoup de questions, mais oui, voilà. Essaye de définir un peu ton approche personnelle. Voilà.
C'est une bonne question. Justement, voilà, je crois que tu as très bien dit que, d'autre part, je fais des portraits, puis c'est peut-être aussi des photos de paysages. Voilà. Si on veut parler de style photographique, je dirais que peut-être que le style, il passe au deuxième plan. Je suis pas vraiment à la recherche d'un style, peut-être que je l'ai ou pas. Mais ce qui revient toujours, c'est le sujet qui est toujours, dans toutes les travaux personnels que je fais, c'est la lumière au sens large ou au sens figuré. Voilà, ça peut passer dans tous les sens. Et j'utilise le médium de la photographie pour dire quelque chose, pour communiquer quelque chose. Mais voilà, donc, je ne suis pas fixé sur un genre ou sur une discipline photographique comme la photo de reportage ou la photo de paysage, le portrait ou la photo de mode. Je peux passer d'un à l'autre, à l'autre, d'une discipline à l'autre. Et ça, je trouve intéressant, mais toujours en rapport avec le sujet qui est pour moi la lumière.
La lumière, ouais.
Soit au sens visuel, figuratif, symbolique, en utilisant des métaphores aussi ou métaphotographiques, je dirais même. Ça peut être très conceptuel aussi des fois.
Ouais, ouais. Mais justement, dans cette approche, le médium que tu utilises, techniquement, a toute son importance. Parce que ce soit un appareil argentique spécifique ou un appareil digital que tu as trafiqué un peu, voilà, c'est très important que cet outil, il t'offre en fait le regard sur ce sujet.
Exact. Je trouve, d'ailleurs, c'est mon approche, mais je trouve qu'un auteur ou un artiste, c'est un grand nom, un gros mot. Il a toujours besoin d'un médium pour faire ce qu'il fait. Mais je trouve qu'il faut qu'il travaille avec le médium, ou au moins qu'il se pose les questions pourquoi il utilise un tel médium et pas un autre. Mm-hmm. Et là c'est ça que j'essaie de faire. Donc, comme tu as dit, si je travaille avec un appareil qui est un peu trafiqué ou qui est modifié, voilà, je sais pourquoi. Mm-hmm. Je sais pourquoi j'ai cherché un tel appareil, pour dire ça et ça.
Tu avais l'exposition collective lors du dernier festival, justement, tu présentais des petits tirages magnifiques avec un processus très, très expérimental et ingénieux. Tu peux nous le résumer, peut-être ?
Tu fais allusion au Polaroid
oui.
Décortiqué, disons.
Oui.
En fait, oui. Donc, c'était des films instantanés, mais j'ai retiré la face arrière. Et le rendu... ça faisait quelque chose de bizarre, je dirais. Hein.
Ouais,
ça donnait, on avait l'impression, je ne suis même pas sûr que c'est vraiment le cas, mais on dirait que la photo est devenue très, très brillante.
Derrière,
c'est petite, on voyait le bord, on voyait que c'était argentique, on voyait ça aussi, on voyait de la matière. Mais il y avait pas mal de gens qui m'ont demandé si j'avais mis du vernis spécial au-dessus de l'image. Mais non, c'est la photo telle qu'elle, mais j'ai retiré le fond. Je crois que ça donnait une certaine profondeur.
Oui, ça donnait un côté très matériel, justement, à l'image, au tirage qui était exposé.
Oui, et j'ai vraiment aimé aussi. Le procédé, il était un peu pas si facile à faire. Il fallait du temps. Puis on griffait aussi certaines images. Mais bon, ça faisait partie. Hein, partie de l'image finale.
Avec la caméra digitale, tu as aussi fait des expériences. Tu as enlevé des filtres passe-haut.
Oui, ça c'est justement, je trouve intéressant, si on se pose la question qui est photographique aussi, ce qu'on voit, ce qui est vrai ou pas, est-ce que ce qu'on voit, est-ce que le monde se présente vraiment comme ça? Mais, et non, ou la question, on n'a peut-être pas de réponse, hein, donc c'est vraiment philosophique. Et l'infrarouge, c'est un peu justement ça, parce que notre œil, il est insensible aux infrarouges, tandis que par nature, le capteur photographique, il est sensible aux infrarouges. Ouais. Donc ce qui fait que chaque caméra est bridée en fait, avec un filtre qui est posé sur le capteur direct, qui filtre les infrarouges.
D'accord.
Maintenant, si on retire ce filtre, on a le spectre qui est là.
Ok.
Mais juste le spectre que l'œil ne voyait pas avant, d'accord, mais qui est là.
Oui, et ça donne des images très étranges, ça très, un peu surréalistes.
Oui, ouais. C'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est un questionnement justement sur la réalité telle qu'on l'aperçoit.
Ouais, ouais.
Et la réalité telle qu'elle est perçue par l'appareil photo.
Et cette approche méditative de questionnement, tu l'as toujours, même quand tu t'intéresses à des portraits. Tu as une série sur les personnes albinos, je pense. Tu as une série sur les personnes avec des taches de rousseur. À chaque fois, je vois que tu fais même un appel pour voir s'il y a des personnes qui correspondent à cette thématique que tu t'es fixée. Et donc après, ça donne toujours... Des beaux livres, hein, parce que tu as fait, à partir de ces travaux, des livres. Mais parle-nous un peu, justement, pourquoi cet intérêt pour des profils particuliers de personnes.
Là encore, c'est dans la même idée que j'ai expliqué tout à l'heure. Dans le sujet, il y a encore l'autre sujet, j'ose dire. Et pour moi, je reviens, c'est la lumière. Donc, les albinos ou les personnes qui vivent avec cette anomalie, pas dire maladie, c'est plutôt une anomalie génétique qui pose quand même pas mal de problèmes malheureusement aux gens concernés. Donc c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est des gens qui ont un autre rapport à la lumière, au soleil surtout, qui est connoté d'être quelque chose de positif, tandis que pour ces personnes-là, malheureusement, c'est quelque chose plutôt de négatif, mm-hmm, qui les met en danger, qui leur cause pas mal de problèmes. Et c'est ça, c'est cet aspect-là qui m'intéressait sur une façon symbolique, parce que les photos, je ne l'ai pas montré, c'est quand même des photos, disons, qui ont un sens esthétique aussi. Donc je voulais vraiment travailler ensemble avec ces personnes. Et aussi ces personnes, au fond, ils ont aussi quelque chose de beau, de très fragile, d'extraordinaire aussi.
Oui, c'est fragile, vulnérable et en même temps magnifiquement beau. Oui,
oui. Oui. Et c'est vraiment ça que je ressentais quand j'ai eu la chance de rencontrer de telles personnes. Mmh. Et c'était intéressant et beau aussi de gagner leur confiance et de travailler ensemble avec eux, de leur expliquer l'idée. Et,
donc tu cherches, tu fais une recherche avec eux, avec leur aide, oui, leur collaboration.
Oui, oui, oui,
tu explores vraiment. Là,
c'est trop sensible. Hein. Il faut que ça se passe entre.
Ouais. Ce projet en particulier, tu en as fait un livre, je pense, non?
Oui, un livre. Bon, ça veut dire c'est auto-édité, donc c'est self-published. J'aime bien quand une série ou un travail personnel est fini. J'aime bien le boucler ou mettre à la fin sous forme de livre. Je crois que toi aussi. Hein,
oui, oui.
Parce que pour moi, alors, c'est finalisé. Et un livre, pour moi, c'est quelque chose d'ultime. C'est comme une expo.
C'est plus durable qu'une expo.
Voilà. Mais je vois le livre vraiment comme un objet en soi, pas comme un portfolio en ligne.
D'accord.
Ça n'a rien à voir.
Ok. Oui. Donc, en fait, la plupart de ces projets qu'on est en train de mentionner, personnels, il y a des livres, des auto-édités, mais qui sont encore, je veux dire, si quelqu'un a envie de le commander, on peut encore te le
demander. Okay. Oui, ils sont en ligne, donc c'est print on demand, ça s'appelle comme ça, le processus. Donc, en fait, le livre, il est imprimé par commande.
D'accord, ok. On donnera à la fin du podcast les sites, les références. Dans la série de photos que tu as choisies, il y a quelques-unes des photos qui illustrent ce qu'on vient de mentionner. Il y a aussi quelques portraits que tu as faits à la Chaux-au-Feu. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça nous relie aussi. Hein. Moi aussi, j'ai une passion pour la chauve-faux et les portraits dans la chauve-faux. Et on en a déjà parlé, comment on a des approches différentes finalement. Là, tu as une approche à la fois humaine et technique parce que tu vas dans la foule. Je pense qu'il y a deux photos comme ça dans la série. Hein. Tu vas dans la foule et en fait, tu réussis à faire des portraits posés au milieu de la foule.
Merci pour le complément, mais je dois le redonner à toi aussi parce que j'adore vraiment tes photos de la chauve-faux. Hein. C'est vraiment des... Tu me corriges, hein, mais c'est des photos captées au vif et en même temps, c'est des très beaux portraits avec des regards qui touchent, qui sont vraiment magnifiques.
C'est gentil.
Je trouve vraiment. Il y en a, c'est hallucinant. On serait presque dans une scène de film.
Ah bah, oui, moi, je suis très inspiré par les films. On ne s'interviewe pas soi-même, on s'interviewe toi. Oui. Parle-nous de ton parce qu'en fait, on en a parlé déjà, c'est très complémentaire. Moi, je fonce dans le tas, je prends les photos sur le vif, et toi, tu arrives, tu regardes, tu abordes les personnes et tu leur demandes carrément de poser comme si elles étaient dans un studio.
Oui, voilà, ça c'est vraiment l'idée. Donc, la chauve-faux, tu l'as remarqué aussi certainement, c'est génial, il y a de tout. Hein. Il y a de toutes les couches sociales, si on peut dire comme ça. Il y a tous les codes vestimentaires, on a de tout. Tous les styles, toutes les approches, voilà, c'est génial. Et en fait, ce que je fais, voilà, je prends un studio mobile, ou presque, donc je prends un éclairage avec lequel je me promène sur le chauve-faux, ce qui est d'ailleurs pas toujours très gai, c'est la foule. Mais ça me permet, comme tu l'as très bien dit, d'isoler des personnages au sein de la foule. Donc, en fait, ce que je fais, c'est j'observe, je me mets sur un endroit stratégique et puis j'attends. Et il ne faut pas trop attendre trop longtemps parce qu'il y a toujours des gens très intéressants qui apparaissent comme ça, du rien. Et alors, je les interpelle, je leur explique un peu mon projet et je les photographie comme en studio. C'est-à-dire avec un éclairage bien étudié qui détache le sujet du fond.
Oui, oui. On a toujours l'arrière-plan, hein, que c'est présent, on est vraiment dans la chauve-faux. Mais eux, ils sont vraiment mis en scène, quoi, comme de façon, pas dramatique, mais de façon très, très élaborée. Ça donne des portraits très forts. Parce qu'en même temps, ça reste humain.
Hein. J'essaie de les faire aussi posés. Et je crois que l'approche que j'ai et qui fait que ça marche, c'est je les arrache un peu du milieu du chaos.
Du contexte, oui.
Oui, du contexte. Et je leur dis, écoutez, je vais faire une photo de vous, mais il faut que vous m'accordez entre 5 et 10 minutes.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, il faut que...
On crée une bulle.
Oui, on crée une bulle, voilà, qui ne dure pas longtemps, mais on crée une bulle. Et je leur demande d'oublier un peu tout ce qui est autour et de poser aussi.
De se concentrer sur la prise de vue. Oui, parce qu'il y a beaucoup une sérénité qui transparaît dans ces portraits. C'est ce que je trouve très étrange, c'est que c'est posé, c'est humain, on sent le chauve-faux derrière, mais il y a beaucoup de sérénité dans les regards et dans l'acceptation de soi-même. Hein, parce que voilà, tu fais attention vraiment à la façon dont les gens sont habillés, les petites choses qui les caractérisent. Et finalement, ça donne des portraits humains. Extrêmement réussi. Ce travail-là, c'est aussi un livre que tu as en tête ou qu'est-ce que...
J'ai fait cette série il y a 2 ans, donc c'était pas cet été.
L'été d'avant.
Avant, oui. Je crois que le travail n'est peut-être pas encore abouti.
D'accord.
Donc j'ai envie de
d'une nouvelle chauve-faux.
Oui, mais de la continuer de la même façon.
Okay.
Mais je crois qu'il y a moyen de creuser encore et d'avoir encore des images.
Ok, ok. Oui. Bah on se recroisera.
Ah, avec plaisir.
Ok. Donc, un petit point de vue sur, je ne sais plus où on en est, sur tes projets. Donc, on a déjà parlé de la photo de presse, mais tu as des expositions en vue, des projets spécifiques sur lesquels tu travailles qui vont être dévoilés prochainement rien de spécial.
Y a une exposition collective où je participe maintenant dans le cadre du LAC, le Tsuboya Artisan Center.
Okay.
LAC.
Okay.
Où je suis membre. Donc, c'est une exposition qui se tiendra, si je me trompe, le 7 décembre au château à Pétembourg.
Ok.
À vérifier. bon, mais c'est pas grand-chose. Hein. Donc, c'est pas une exposition de photographie. Donc, c'est
une participation, participation à un projet collectif.
À, d'accord. Un projet collectif, oui, qui me tient quand même à cœur. Et en dehors de ça, j'ai deux projets en cours. Mais il faut que je travaille vraiment beaucoup encore là-dessus. Mais okay. Je suis content d'avoir des travaux qui sont en fabrication.
Est-ce que quand tu mets en chantier certains projets, ça vient d'une invitation extérieure ou c'est toi qui te dis, moi j'ai envie de travailler dans cette direction-là, sur ce sujet-là?
Non, c'est plutôt oui, moi qui a le déclic, qui a l'idée, parce que l'idée est toujours importante dans mes projets, c'est toujours le concept, qui est quand même à la base et l'image souvent... C'est un résultat du concept de l'idée qui peut être très belle aussi du concept même. Et l'image, c'est le résultat visuel, forcément. Par exemple, j'ai un projet que je suis en train d'être au bout maintenant. Ça va peut-être étonner quelques gens, mais c'est presque une série de photos de mode, mais... façon très différente. J'ai pas encore trop dévoilé parce que j'ai envie de dévoiler vraiment qu'à la
fin. Le moment, oui.
Oui. Donc c'est aussi avec un rapport à la technique de la prise de vue qui est assez compliqué, qui demande pas mal de temps. Et j'ai eu un petit coup de foudre pour la cité radieuse
qui est du Corbusier.
Oui, du Corbusier, parce que il y a une unité d'habitation, comme on l'appelle, pas loin de Metz. Je ne sais pas si...
Oui.
Donc, il y en a... Val de Prier, oui, exact. C'est quand même fascinant. Hein. Et ça m'intéresse. Donc là j'ai commencé, mais il faut que je cherche encore vraiment ce que je veux dire. Mais c'est impressionnant. Hein. Et ça fait plaisir.
Comment
et
tu ça, te définirais alors? Tu es un artiste à la recherche, un photographe qui explore, qui veut se surprendre lui-même, qui se pose des questions. Comment tu te définirais dans cette quête-là?
Je crois que chaque photographe est quelqu'un qui a la découverte de quelque chose. Sinon, on ne serait pas photographe, hein, je crois. Et on est à la recherche. Et on cherche quoi? On cherche la découverte.
Ouais, à être surpris. Oui.
Oui. Ce qui est le plus beau. Hein.
Ouais. Le Luxembourg, par rapport à il y a 20 ans quand tu as commencé, on était encore un petit peu dans l'argentique, 2000-2005. Et entre-temps, le paysage a complètement été chamboulé. Aujourd'hui, on a énormément de photographes, à la fois professionnels, mais aussi amateurs extrêmement talentueux. Ça donne une dynamique incroyable, des expositions presque toute l'année, des nouveaux talents qui surgissent tout le temps. Qu'est-ce que ça t'inspire, cet écosystème nouveau qui n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 20 ans?
Moi, je trouve que c'est très bien et c'est important. Et en même temps, à la fin, tout le monde inspire tout le monde, je dirais.
Ouais.
C'est génial, ça crée une dynamique, ça crée un renouveau qui est bien quand même. Et même, on voit aussi, si j'ose dire comme ça, avec les jeunes photographes, eux, ils redécouvrent l'argentique. Ça veut tout dire. Donc, pour moi, c'est un cercle, c'est une boucle qui revient à un moment donné ou à un autre.
À un moment, on est jeune. Un moment après, on est moins jeune, ouais. Et puis on est senior, et le cercle continue.
Oui, le cercle continue. Voilà.
Ouais. Je suis en train de voir très vite un peu ta sélection, parce que bon, on a abordé un peu toutes ces photos. Il y en a qui sont très étranges, comme par exemple celle-ci. C'est un paysage un peu lunaire. On voit un point noir et c'est le soleil.
Oui. C'est une série que j'ai réalisée justement, on revient à la lumière. Donc la photo, pour la démystifier, donc, elle a été faite avec du film instantané qui est hypersensible à la solarisation. Et donc ce qu'on voit, c'est une vraie solarisation directe sur papier. En fait, c'était du film Instax.
Ah, ok.
En sténopée.
Okay.
Et la montagne, où on dirait que c'est une montagne, c'est une carrière de sable.
D'accord. Donc, l'illusion, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Ouais, ouais.
Donc, c'est ça que je trouve aussi intéressant. Donc, il ne faut pas forcément voyager lointain pour créer quelque chose d'extraordinaire ou de spécial ou de... Oui, d'ambivalent ou d'intrigant qui nous fait poser des questions.
Oui, justement, la plupart de tes photos, en tout cas, d'après ce que je vois, ce que je connais, elles ne jouent pas sur l'ailleurs, un pays en Asie, un pays en Afrique. C'est ici, quoi. C'est ici que ça se passe. Toutes tes explorations urbaines et picturales, on est au Luxembourg, sans que ça soit une étiquette, quoi. Voilà.
Non, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, parce que d'une certaine façon, on peut aussi se poser des questions. Si quelque chose paraît spectaculaire dans de l'image, souvent... Pas mal, des fois, c'est quand même parce que c'est pas ici, parce que c'est exotique du sujet même. Tandis que l'image elle-même, elle n'apporte rien ou pas grand-chose. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas une critique. Hein. C'est
comme
c'est,
ça.
L'ADN de la photo aussi. Hein. Au début de l'histoire de la photo montrait le monde d'ailleurs. Mm-hmm. Hein, le monde... que personne n'avait vu avant. Ouais. Voilà, c'est normal, c'est normal. Mais je crois qu'on peut aussi créer des univers personnels, des univers plastiques qui sont juste à côté.
À côté, oui. Dans un esprit un peu, parfois lynchien.
Ah.
Hein, quelques images ont un peu cet esprit, de cette étrangeté propre à l'univers de David Lynch.
Je suis grand fan de David Lynch, grand fan.
Ouais.
Parce que pour moi... dire tout court, il y a beaucoup de gens qui, David Lynch, peut-être qu'il n'est pas compréhensible, mais c'est pas le but, je crois. Quelqu'un qui travaille avec son médium. Là, je reviens à ce que j'ai dit avant, un artiste, pour moi, un grand artiste, s'il travaille avec son médium, il sait pourquoi il a choisi ce médium là et il travaille, il y va à fond. Ça, c'est génial. Et David Lynch, il fait ça.
Mm-hmm. C'est pas pour rien qu'il ne fait plus beaucoup de cinéma, mais il fait beaucoup de travaux artistiques, plastiques.
Qui fonctionne sur le plan visuel.
Ouais.
Pas sur le plan logique, pas sur le plan linéaire. Non. Mais c'est pas le but.
Ses films sont une énorme installation, souvent, qu'il faut visiter en oubliant la logique de la narration classique.
Voilà, c'est pas la narration linéaire, c'est pas une pièce de théâtre. Et c'est pour ça qu'il, d'ailleurs, à mon avis, qu'il ne fait pas de théâtre.
Écoute, on arrive tout doucement à la fin. Là, tu vois, c'est une conversation, ça s'est super bien déroulé. On a pas eu besoin de parler en luxembourgeois. Not ganz viel, mais du kannst lo, als für Schluss, let's be schwarzen das King, das gut. Voilà, je te remercie.
Merci à vous, merci beaucoup.
Je voudrais dire encore que donc, ton site internet où on peut retrouver des sélections de certaines des photos ou des projets qu'on a mentionnés.
Moi, je crois que le plus facile, c'est d'aller voir sur Instagram.
Ok.
Sinon, j'ai encore mon ancien site www.shoot.lu.
Comment ça s'écrit?
Shoot.
Shoot comme shoot.
Shoot en anglais.
Shoot.
Ouais. Et là, on trouve aussi un lien sur la plateforme des self-published livres.
Ok.
Blurb.
Blurb, B-L-U-R-B. Ouais.
Oui, parce que là, on peut fêter virtuellement dans le papier des livres.
D'accord. Et Instagram, c'est Marc Wilvert.
Oui.
Ok. Merci beaucoup. Donc, j'encourage tous les auditeurs à aller jeter un coup d'œil sur ces différentes plateformes pour voir un peu le travail de Marc. Même peut-être la plupart, vous connaissez déjà le travail de Marc, mais c'est vraiment fascinant de continuer à le suivre et de voir ce qu'il nous réserve pour le futur. Donc, je vous remercie de votre attention. Je voulais encore mentionner que notre prochain festival, Light Leaks Festival, aura lieu du 9 au 12 mai 2024. Au Rotonde, donc on aura encore probablement l'occasion de revenir sur le détail de la programmation. Et il est encore trop tôt pour vous dévoiler des grands secrets, mais voilà, il y aura du beau monde, donc au mois de mai prochain au Rotonde. Je voulais aussi remercier Eric Engel, qui est ici à côté de moi, la technique, qui a fait en sorte que tout ça soit enregistré comme il faut. Et voilà, le Bovary aussi, je remercie, parce que le cadre est vraiment superbe. On était tranquille ici, hein, Marc.
Super. Agréable.
On va revenir. OK, merci. Merci encore. Bonne journée à toi. Merci à tous et à très bientôt.